Décryptage. Marion Kazanov.
Les actes antisémites ont quadruplé en l'espace d'un an en France, selon le ministère de l'Intérieur. L'an dernier, 1676 actes antisémites ont été recensés, contre 436 en 2022. Ces actes ont particulièrement explosé depuis le 7 octobre, après l'attaque du Hamas contre Israël et la réplique depuis d'Israël sur Gaza. Aujourd'hui, le gouvernement a lancé des assises de lutte contre l'antisémitisme pour définir un socle commun de valeurs républicaines. Mais cela suffira-t-il ? Comment expliquer que cette haine anti-juive persiste en France et qu'elle augmente notamment dans les facs ? On en parle ce soir dans Décryptage. Bonsoir Jean-Yves Camus.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Quand je vais à la synagogue avec mes parents, quand je vais dans un commerce cachère, etc., il y a forcément en ce moment une sorte de vigilance en plus, de se dire, ok, est-ce qu'il y a des sorties de secours ? Est-ce qu'il y a des gens qui paraissent un peu suspects, qui ont l'air de pas trop aimer les juifs autour de moi ?
Pour les filles, quand on va à la synagogue, souvent on met des jupes longues pour être un peu pudique. Donc du coup, je mets beaucoup moins de jupes longues parce que j'ai peur que les gens me reconnaissent dans la rue et que je me fasse embêter après derrière.
Moi, je fais un peu plus attention. Je vérifie surtout quand je suis sur les réseaux sociaux, dans les métros. C'est vrai que moi, je publie rien sur mes réseaux sociaux.
On l'entend, Jean-Yves Camus, dans ces témoignages d'étudiants juifs interrogés par RFI. Plus d'attention, une vigilance renforcée. J'ai donné les chiffres, 1676 actes antisémites en 2023. Ça peut être des insultes, des tags, des agressions. Est-ce que ces chiffres pourraient être plus importants encore ?
Écoutez, ces chiffres pourraient malheureusement être encore plus importants, tellement il semble qu'après l'acte terroriste commis par le Hamas le 7 octobre dernier, il y a eu une sorte d'inversion des valeurs qui explique assez largement ce quadruplement dont vous venez de parler. En clair, d'abord, au lendemain du 7 octobre, est apparu le fait qu'il existait en France des gens qui applaudissaient à ce qui venait de se passer. Ensuite, ceux qui n'applaudissaient pas forcément, du moins ouvertement, à ce qui venait de se passer, opéraient une sorte de retournement de la situation en disant « oui, effectivement, c'est affreux, mais finalement, si on cherche les responsabilités premières, ce sont celles de l'État d'Israël qui est dirigé par un gouvernement d'extrême droite ou un gouvernement fasciste. Même à l'intérieur d'une partie de la gauche, et je dois le dire, même à l'intérieur d'une partie de la communauté juive engagée à gauche, on a exagérément repris ce terme. Non pas que le gouvernement Netanyahou soit au-dessus de toute critique, mais il n'est assurément pas, selon les critères de l'histoire européenne et de la scientificité universitaire, un gouvernement fasciste. Donc, si vous ajoutez à ça que malheureusement, il faut aujourd'hui admettre que toute la stratégie de lutte contre l'antisémitisme, qui a reposé ces dernières décennies sur l'effort d'éducation, sur la croyance qu'on pouvait, par l'école, par les conférences dans les lycées et les universités, éradiquer le préjugé antisémite, il faut reconnaître aujourd'hui que c'est une faillite totale.
Et on va revenir sur les moyens, ce que les autorités font pour lutter contre l'antisémitisme. On va revenir sur ces assises de lutte contre l'antisémitisme. D'abord, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, a déploré le fait que les juifs sont sommés de réagir, de condamner les bombardements israéliens sur Gaza. Comment expliquez-vous cela ? Est-ce que c'est systématique de demander aux juifs de se justifier sur la politique d'Israël ?
C'est effectivement assez systématique et ça répond d'ailleurs à une logique qu'on voit dans le sondage que l'IFOP a réalisé pour l'American Jewish Committee. On voit donc que pour 21% des sondés, il est légitime de prendre à partie les juifs au motif, je cite, de leur soutien supposé à Israël. J'insiste sur le supposé. Parce que qu'on se prenne le bec avec quelqu'un qui se trouve être juif et qui soutient des positions que l'on conteste sur le conflit israélo-palestinien, j'entends qu'on l'agresse, ça je ne l'entends pas, mais qu'on ait une discussion forte, très bien. Mais que cette discussion intervienne ou que cette attaque intervienne à raison du soutien supposé, pourquoi ? Sinon, parce que pour un certain nombre de sondés, 21% donc, un juif, quelles que soient ses idées politiques, quel que soit son degré d'engagement religieux, est nécessairement quelqu'un qui a C'est même plus la fameuse double allégeance dont on parlait à l'époque du discours du général de Gaulle en 1967, mais j'allais dire une préférence naturelle, une inclination naturelle à être davantage israélien que français. Donc naturellement, on le somme de prendre parti. Et puis, il est vrai aussi que peut-être, au sein de la communauté juive, on réagit trop facilement à cette actualité, au lieu de dire « mais attendez, c'est très simple, nous, nous sommes Français. Nous allons avoir bientôt des élections européennes, elles doivent se dérouler sur un agenda qui est un agenda concernant l'Europe et la politique française. Nous n'avons pas systématiquement à prendre position sur quelque chose qui se passe dans un État dont nous ne sommes pas citoyens. J'ajoute que, moi-même, juif pratiquant, je ne me sens pas obligé de réagir à l'actualité d'un pays auquel je suis attaché, dont je souhaite qu'il vive et qu'il vive en paix, mais je ne suis pas citoyen, je ne paye pas mes impôts.
Et alors pourquoi on fait si facilement ce lien ? Pourquoi on fait si facilement ce lien entre juifs et Israël ? Ça peut paraître étonnant aujourd'hui encore de faire ce raccourci.
Parce que, d'une part, et ça, il faut que tout le monde le comprenne, l'existence de l'État d'Israël est au cœur de l'identité juive en diaspora. C'est ainsi, ça ne l'a pas toujours été. Ça ne l'était pas, par exemple, chez ceux qu'on appelait les Israélites français d'avant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce modèle a changé, tout simplement, parce que la démographie juive a changé, parce que les événements historiques ont changé, après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, il est, pour les Juifs, tout à fait normal que les Juifs aient un État, que cet État puisse, pour ceux qu'ils veulent, constituer l'endroit où ils iront vivre. Il faut se faire donc au fait qu'aujourd'hui, quelles que soient nos opinions et notre degré d'adhésion à l'idéologie politique qu'est le sionisme, tel que l'a défini Theodor Herzl à la fin du XIXe siècle, il y a un consensus chez l'immense majorité des Juifs sur le fait qu'Israël est important dans l'identité juive et que ce pays a le droit inaliénable d'exister parce qu'il y a un lien historique entre le fait d'être juif et la terre d'Israël. Ça ne veut pas dire que d'autres n'ont pas le droit de vivre sur cette terre. Ça veut dire qu'on ne peut pas, et certains le font pourtant, expliquer que finalement l'histoire juive est une reconstruction et qu'il n'y a pas de droit des juifs à la terre d'Israël. Il y en a un, et les juifs y sont attachés.
Alors, ces dernières semaines, les universités américaines organisent des mouvements, des rassemblements pro-palestiniens, un mouvement suivi dans plusieurs facs françaises. Dans certaines, il y a aussi les actes antisémites qui sont en forte hausse. Par exemple, le 26 mars, l'université de Nantes a porté plainte après avoir découvert des tags antisémites à caractère néo-nazi sur son campus. Jean-Yves Camus, comment expliquer qu'il y ait un discours antisémite dans les universités qui sont pourtant symboles d'éducation supérieure, lieu de débat, d'idées ? Comment on peut expliquer ça ?
Oui, mais d'éducation supérieure à quoi ? À cette idéologie qui consiste à systématiquement critiquer Israël, qui est l'État le plus critiqué du monde, à ne pas prendre en compte la nature du Hamas comme mouvement terroriste, comme mouvement islamiste, éduquer au fait de prendre systématiquement, par posture idéologique, le parti de celui qui est censé être le faible contre celui qui est censé être le fort. Et on sait bien que dans les tropes habituelles de l'antisémitisme, il y a toujours cette idée que finalement les juifs dominent, qu'ils sont, acteurs d'une forme de néocolonialisme, de nouvelle domination, contre laquelle, au nom de l'idéologie woke ou d'une certaine forme d'idéologie de gauche ou d'extrême-gauche, il est non seulement bon, mais indispensable de s'indigner. Et si, à un moment donné, l'indignation est sélective, et si effectivement on se mobilise contre ce que fait Israël sans se mobiliser également sur tout ce qui peut exister comme conflit, voire comme situation potentiellement génocidaire dans d'autres parties du monde, alors on aboutit effectivement au résultat qu'on a vu.
Et alors, c'est aussi que le débat semble impossible. Certains étudiants juifs affirment que « sioniste » aussi est devenu une insulte. Sur certains tags, on lit « sioniste » égale « fasciste ». C'est comme si ce terme avait changé de définition. On l'entendait dans le journal, Aurore Berger l'évoquait aussi. Comment expliquez-vous cela ? Comment analysez-vous le fait que ce terme, donc « sionisme », semble devenir une insulte aujourd'hui ? On ne peut plus débattre autour de ce terme ?
Je ne sais pas si on ne peut plus débattre, on le peut sans doute.
Mais dans les facultés.
Dans l'histoire, par exemple, de l'extrême gauche, non seulement française, mais européenne, le sionisme est devenu très tôt quelque chose qui ressemblait à une insulte. On était assimilé aux colonisateurs, on était assimilé à l'impérialisme, à toutes ces idéologies dont l'extrême gauche post-68 tarde tentait de se défaire. Et la seule chose qui a changé, c'est le degré de violence, en fait. Même si en 1982, au moment donc de la confrontation entre l'armée israélienne et le Liban, on avait déjà vu une forme d'antisionisme radical émerger et des situations extrêmement difficiles déjà pour les étudiants juifs et pour les juifs en général qui étaient pris à partie déjà en tant qu'ils étaient supposés être chacun d'entre eux des représentants de l'État d'Israël, des porte-voix de l'État d'Israël, comme s'ils étaient tous d'accord avec ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc les mobilisations, elles ont gagné en ampleur. Moi, je ne me souviens pas, par exemple, qu'en 1982, je quittais Sciences Po à ce moment-là, on ait vu la moindre manifestation qui représente le quart de ce qu'on a vu rue Saint-Guillaume ces derniers jours.
Sciences Po.
À Sciences Po, oui, mais d'une manière générale, moi, ce qui m'interpelle particulièrement, c'est ce constat qui s'impose aujourd'hui que l'éducation, loin d'avoir éclairé les esprits sur l'antisémitisme, a l'air d'en avoir obscurci certains. Alors peut-être parce que précisément, cette éducation s'est focalisée trop exclusivement sur une période de l'histoire juive, qui est la période de la Shoah. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'enseigner, il faut effectivement l'enseigner, mais il faut en tirer un certain nombre de conclusions. Par exemple, que les Juifs ont le droit de vivre en paix sur une terre, je le répète, avec laquelle ils ont un lien historique. Par exemple, le fait que il y a effectivement la forme d'antisémitisme qui a conduit à la Shoah, c'est-à-dire l'antisémitisme nazi, et l'antisémitisme de ses alliés, dont le gouvernement de Vichy. Mais qu'il n'y a pas que cette forme d'antisémitisme-là. Si vous cherchez, y compris dans les écrits de Karl Marx ou dans les écrits de Proudhon, vous trouverez, et ça commence quand même à dater, un antisémitisme virulent, voire chez Proudhon assez débridé, qui a irrigué toute une partie de l'extrême-gauche, et qui se rappelle en ce moment notre bon souvenir.
Alors justement, il existe notamment un collectif d'étudiants juifs de gauche appelé Golem qui dit s'opposer à l'extrême droite et se dit aussi pris en tenaille entre l'antisémitisme d'extrême droite et l'antisémitisme d'extrême gauche. Ça veut dire quoi? Quelle serait la différence, précisément les différences entre l'un et l'autre?
Je crains malheureusement que la différence, ce soit qu'aujourd'hui, les juifs en général, les étudiants juifs en particulier, soient physiquement davantage confrontés à celui qui provient de l'extrême gauche qu'à celui qui provient de l'extrême droite. Parce que vous rappeliez que l'Université de Nantes avait porté plainte contre des tags néo-nazis, mais enfin, ne soyons pas angéliques. Aujourd'hui, tout de même, ce ne sont pas les néo-nazis qui, dans les universités, sont au cœur des mobilisations contre Israël et qui prennent à partie les étudiants juifs. Cet antisémitisme néo-nazi ou d'extrême droite, il a toujours existé, il existe toujours de manière vivace, mais finalement assez secondaire, puisque si l'on parle maintenant un petit peu politique, force est de constater aussi que les partis qui se situent les plus à droite du spectre politique, en France par exemple, ne font pas de l'opposition à Israël leur thème principal de campagne électorale en vue des élections européennes, ni même en vue des élections nationales.
Le gouvernement, donc on vient à ces assises de l'antisémitisme, a lancé ces assises contre l'antisémitisme pour provoquer un sursaut collectif. Pour vous, qu'est-ce qui serait le plus efficace pour lutter contre ce fléau en France? Est-ce que vous attendez de ces assises des annonces fortes?
Écoutez, je vais être un peu cynique peut-être, mais j'aimerais d'abord qu'on arrête tous les ans de nous parler d'un sursaut collectif. Ça fait maintenant une trentaine d'années que ce type de langage est utilisé. Je ne doute pas une minute de la bonne foi du gouvernement de celui-ci comme des précédents dans leur volonté de lutter contre l'antisémitisme. Mais à un moment donné, lorsqu'un certain nombre de limites sont dépassées, la réponse est dans la politique pénale, la réponse est dans la loi. Cette loi, Robert Gilles le disait tout à l'heure sur votre antenne, peut-être faut-il réfléchir à la modifier. Elle le disait d'une autre manière, mais peut-être faut-il que la définition de l'antisémitisme évolue. L'antisémitisme en France est un délit. L'antisionisme ne l'est pas. Alors il faut effectivement faire attention, parce que on peut parfaitement s'opposer à l'idéologie sioniste. On peut, même quand on est juif, ne pas être sioniste. C'est votre droit le plus strict. Par contre, à partir du moment où un certain nombre de formulations de l'antisionisme assimilent par exemple les juifs ou les israéliens à des fascistes, à des nazis, à des criminels de guerre semblables à ce qu'a été M. Eichmann, par exemple, quelque chose qu'on a entendu récemment. Alors là, il faut que la loi évolue et que la sanction pénale passe.
Et pour vous, les autorités ne font pas assez aujourd'hui pour réguler cela? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que ça vient tout simplement des mentalités qui ont du mal aussi à évoluer et que l'arsenal législatif, les autorités ont du mal à influer là-dessus?
Non, on a eu des évolutions de l'arsenal législatif. Il faut rappeler que la première loi qui véritablement punit le racisme et l'antisémitisme date de 1972. On a eu, en fait, après la loi Pleven, encore une évolution positive avec la pénalisation de la négation du génocide des Juifs. C'était la loi Guessot en 1990. On a eu ensuite la loi Perben, qui est intervenue une quinzaine d'années plus tard, 14 ans plus tard. Pour l'instant, par exemple, concernant la définition de l'antisémitisme qui incorpore certaines formes d'antisionisme, nous n'avons que la résolution non contraignante votée par l'Assemblée nationale et qui reprend la définition de l'antisémitisme donnée par l'IHRA, qui se consacre à la lutte pour le souvenir du génocide, hein, de l'Holocauste, selon le terme anglo-saxon. Ça n'est pas une loi. Encore une fois, l'antisionisme dans ses formes radicales, aujourd'hui, n'est pas puni. C'est peut-être à cela qu'il faut penser.
Est-ce qu'il existe un antisémitisme typiquement français, c'est-à-dire avec des théoriciens français, des idées qui viennent de France, ou est-ce qu'il est plutôt lui-même influencé par d'autres courants, d'autres pays?
À l'extrême gauche, le pays dans lequel la chose a été la plus théorisée, c'est au sein de petits mouvements trotskistes, notamment britanniques. Il y a quand même déjà de cela plusieurs décennies. Non, on n'a pas de théoriciens particulièrement importants de l'antisémitisme dans cette partie de l'Europe. La France n'est pas une exception. Elle ne produit pas quelqu'un qui aurait une audience mondiale sur la question. Ce qui est frappant dans le phénomène que l'on voit actuellement, c'est précisément qu'il s'étend. Il est à la fois européen. Il est transatlantique, pas seulement aux États-Unis, d'ailleurs au Canada aussi. Il est vivace également sur les campus australiens, voire néo-zélandais. Bref, c'est un phénomène transnational qui est alimenté aussi par la manière dont Internet et les réseaux sociaux démultiplient la facilité et la rapidité de propagation des messages. Malheureusement, on a eu de tout temps un antisémitisme qui possédait certes quelques particularités nationales, quelques adaptations nationales, mais qui répond finalement à, encore une fois, des tropes qui sont à la fois très anciens et très généraux. Par exemple, cette idée...
Et on va terminer là-dessus.
Finalement, d'origine chrétienne, du vieil anti-judaïsme chrétien, selon laquelle Israël a toujours recouru à la violence pour aboutir à sa suprématie et quitte à pratiquer un certain nombre de meurtres particulièrement odieux, comme par exemple le meurtre d'enfants. Ça, c'est un vieux, trope de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme chrétien médiéval et même avant.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Yves Camus, politologue, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Je cite aussi ce livre que vous avez co-écrit, Histoire politique de l'antisémitisme en France, de 1967 à nos jours, aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques secondes, sur RFI, la première édition d'Afrique Soir.
Bonjour.